On a la joie d'accueillir un visiteur avec nous, la personne du pasteur Thierry Le Gall. Vous n'êtes pas sans savoir, vous n'ignorez pas que nous avons vécu des événements politiques importants dans notre pays, dans ce pays de la France, et que nous avons participé, j'espère en tout cas les uns et les autres, en votant, à un bouleversement politique. Et avec certaines inconnues, bien évidemment, dans ce domaine. Et donc, dans ce contexte politique de changement, de bouleversement même, d'inconnues ou d'incertitudes, nous sommes heureux d'accueillir Thierry Le Gall, qui, bien sûr, en plus d'un ministère pastoral dans le cadre d'une église, puisqu'il a été de nombreuses années pasteur dans des églises. Il vient de Lannion, c'est son pays d'origine, dans les Côtes d'Armor, et en plus de ce ministère pastoral dans les églises, il a un ministère pastoral auprès des parlementaires, et ils en ont bien besoin, on pourrait dire. Alors il y en a qui vont partir, et puis il y en a d'autres qui vont arriver, une nouvelle génération, on nous promet. Donc il a commencé ce ministère, et il vous l'expliquera avec des détails, notamment cet après-midi, auprès des parlementaires, et il est venu. Là, il fait le tour aussi des églises pour expliquer ce ministère qui est assez nouveau dans notre pays. On trouve ce ministère dans beaucoup de pays dans le monde, mais là, ici, pour la France, c'est assez nouveau. Donc, c'est nécessaire de communiquer là-dessus et de partager sur ce ministère afin que nous puissions l'accompagner, l'appuyer de nos prières pour ce qu'il fait dans ce domaine auprès des hommes politiques, des hommes et des femmes qui dirigent notre pays. Et donc, il a un rôle important dans ce domaine. Et puis, bien sûr, pour inciter les chrétiens aussi à prier pour les autorités, comme la Bible nous le demande. Et nous ferons cela aussi ce matin, certainement. Nous aurons un temps de prière. Alors, je vais lui laisser maintenant toute la place pour qu'il puisse partager la parole de Dieu ce matin. Maintenant, merci, mon cher Thierry. Que Dieu te bénisse.
Merci, Daniel. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Et je remercie votre pasteur Daniel de m'avoir invité. Et je remercie également son épouse pour le gîte et le couvert. Voilà, je n'ai pas dormi sous les ponts d'Angers cette nuit. Vous avez les salutations fraternelles de l'Assemblée de Dieu de Lannion, mais également du pasteur Étienne Lermeneau, qui est président du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, dont les Assemblées de Dieu sont membres. Et le CNEF représente plus de 70% des églises évangéliques en France aujourd'hui. Nous sommes représentants, nous sommes vos voix auprès du ministère de l'Intérieur, auprès du gouvernement, auprès des préfectures. Et pour ma part, je travaille donc dans ce ministère, comme vous l'a expliqué Daniel, auprès des sénateurs et des députés que je visite chaque semaine pendant les sessions parlementaires au Sénat et à l'Assemblée nationale. Je vous expliquerai tout le détail de ce ministère cet après-midi et vous pourrez poser toutes les questions qui vous brûlent les lèvres sur la politique. Est-ce qu'un chrétien peut s'intéresser à la politique? Quelle est la pensée de Dieu? Quelle est prophétiquement aussi la pensée de Dieu et le programme de Dieu pour les gouvernements de nos pays? Parce que Dieu s'intéresse à nos pays, à nos nations, et il nous demande d'avoir un rôle particulier dans ce domaine. Je bénis Dieu parce que ce matin, le pasteur Étienne Lermeneau est dans la cour de l'Élysée avec tous les invités. Il a été invité à la cérémonie d'investiture pour représenter les évangéliques. Et c'est une grâce de Dieu. Et le frère Lermeneau le fait avec beaucoup d'humilité et il est heureux de pouvoir nous représenter ce matin. Donc peut-être qu'on l'apercevra sur les images de télévision en replay. N'allumez pas vos portables pour regarder le direct, s'il vous plaît. Et je salue les frères et sœurs de Cholet qui sont connectés avec nous grâce à la technologie. Voilà. J'aimerais ce matin que nous puissions approfondir ensemble cette pensée, ce projet de Dieu qui veut faire de l'Église de Jésus-Christ un instrument de bénédiction pour le pays. Il l'a été pour de nombreux pays et je ne vois pas pourquoi il ne le serait pas pour la France. Nous attendons souvent, nous, des hommes et des femmes politiques que nous les élisons, qu'ils fassent le travail de Dieu, en gros, qu'ils aient des pouvoirs miraculeux, qu'ils soient providentiels et qu'au bout de 3 mois, ils aient réglé tous les problèmes du pays. En gros, on attend Jésus-Christ à l'Élysée. Mais, si vous lisez la Bible, vous verrez que ça ne nous a jamais été promis. Mais il y a quand même des choses possibles. Et je voudrais, avec vous, que nous puissions comprendre que si nous le souhaitons, nous pouvons dire à Dieu, « Seigneur, me voici, utilise-moi pour être un instrument de bénédiction autour de moi, dans mon village, dans mon quartier, dans ma ville, et donc si nous le sommes tous ensemble, pour notre pays. » Parce que la France, même si nous avons élu un nouveau gouvernement, un nouveau président qui va nommer un premier ministre, qui va nommer des ministres, le pays va encore mal. Et c'est pas parce que je suis gaulois, enfin plus breton que gaulois que je dis ça, mais parce que vous savez qu'on a une réputation de voir toujours le verre à moitié vide. Or, nous croyons qu'avec Dieu, nous avons une capacité de voir les choses changer par la prière, l'action du Saint-Esprit, mais aussi par nos comportements. Alors la France va mal économiquement, moralement, socialement, politiquement, et face aux mauvaises nouvelles, nous pourrions rester enfermés dans nos églises, vous savez, comme des bocaux qu'on fait l'été pour les réouvrir l'hiver, des églises bocales dans lesquelles on se sent protégé en disant « Seigneur, heureusement qu'on est dans ton église, heureusement que tu nous protèges, mais tout le reste ne nous concerne pas. » Nous pourrions aussi nous laisser intimider par ceux qui nous disent « Au nom de la laïcité, taisez-vous » ou « Vous êtes dans un pays laïque, donc vous n'avez pas le droit de parler de votre foi, et surtout pas en public. » Et on reviendra dessus tout à l'heure. Mais l'Église de Jésus-Christ a une responsabilité lors de son passage sur terre. La Bible nous dit que nous sommes pèlerins sur cette terre. Et nous avons une mission pendant ce temps, le temps que Dieu nous donne vie. Que ce soit une vie courte ou une longue vie, nous avons une responsabilité. Alors, face aux mauvaises nouvelles qui traversent nos pays, nous pourrions faire l'autruche, c'est-à-dire ne plus écouter les informations, parce que c'est vrai que c'est pas toujours très gai. Ne plus être, ou alors être révolté. Vous avez remarqué, là, au premier tour et au second tour, enfin, au premier tour surtout, il y a beaucoup de gens qui ont voté pour des partis extrêmes parce qu'ils ont envie que ça change, ils sont révoltés. Ils voudraient que leur situation change parce qu'au quotidien, ils souffrent de cette situation. Ou nous pourrions être résignés, fatalistes, en disant que de toute façon, que ce soit ce gouvernement-là ou un autre, ça ne changera rien. Mais quand je lis l'histoire de l'Église, quand je lis la Bible, je m'aperçois que depuis la création jusqu'à aujourd'hui, Dieu a suscité des hommes et des femmes pour être des instruments de bénédiction pour leur pays. Et je vous pose la question, voulez-vous en être ce matin? Vous n'êtes pas obligé, hein? C'est une invitation. Il n'y aura pas de pointage à la sortie avec un engagement pour un parti évangélique chrétien. Moi, je suis aumônier auprès des parlementaires, je ne suis pas encarté dans un parti. Mais je vote, parce que je crois que c'est important de voter. Alors lisons ensemble, si vous le voulez bien, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25 et au verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire, ou t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. » Jésus a le souci de l'autre. Et il l'a prouvé par le plus grand acte qui soit possible, c'est celui de donner sa vie pour les autres. Donner sa vie pour ceux qu'il a aimés, pour nous, jusqu'à la croix pour le pardon de nos péchés. Et sa vie, son sacrifice et sa résurrection sont une preuve que Jésus a été une source de bénédiction pour l'humanité, parce que 2000 ans après, nous ici à Angers, nous sommes tous et toutes au bénéfice de ce don que Jésus a fait. Il a été un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu son Père pour le salut de toutes les nations. Alors de ce côté-là, tout a été accompli. Mais il nous reste encore du travail. Vous savez que Jésus est resté 3 ans et demi, enfin, il est resté un peu plus de 33 ans sur terre, et pendant les 3 ans et demi de son ministère, il a fait énormément de bien autour de lui, il a manifesté la puissance de Dieu, il a délivré ceux qui étaient possédés, il a guéri les malades, il a pardonné les péchés, et à un moment, il a dit à ses disciples, « Je vais partir. » Mauvaise nouvelle pour les disciples. C'était tellement pratique d'avoir Jésus avec soi. Il leur a dit, je vais partir, mais je vais vous envoyer une puissance qui vous permettra, vous aussi, de poursuivre le ministère que je vous ai enseigné. Et nous, aujourd'hui, nous sommes dans cette mission et dans cette vision. Christ est avec nous en esprit et en vérité, et il nous a donné un commandement. Nous sommes ce matin, enfin en tout cas je veux le croire, frères et sœurs en Christ. Et pourtant je vous regarde, vous êtes tous différents. Dieu n'a pas fait de clones, et sa volonté n'est pas de faire des clones, mais de respecter notre identité, notre différence, notre genre, mais de nous appeler tous à son service. Et cette fraternité qui nous unit, à chaque fois que vous passez devant une mairie, eh ben, elle vous est rappelée, parce que liberté, égalité, fraternité. Et la fraternité est une valeur chrétienne. Cette fraternité, nous la concrétisons lorsque nous agissons au bénéfice de l'aide, enfin, pour venir aider notre prochain. Parce que lorsque nous avons compris que nous sommes frères et sœurs, nous avons compris que nous pouvons être au bénéfice de la solidarité, c'est-à-dire que si je passe par une période difficile, je sais que tu es vraiment mon frère, si tu es vraiment ma sœur, alors je peux compter sur toi. Mais si je suis vraiment ton frère, tu peux aussi compter sur moi. C'est ça la fraternité. Et la fraternité qu'attend notre société française et la fraternité chrétienne, la société française attend qu'elle se concrétise en actes. Et vous savez, il est beaucoup plus facile de parler de sa foi après avoir fait quelque chose pour notre prochain. On peut toujours parler de notre foi, il faut le faire et nous le verrons tout à l'heure. Mais lorsque nous concrétisons notre foi et notre fraternité en acte de solidarité, ce que vous faites ici à Angers, alors nous sommes une source de bénédiction pour notre prochain, pour mon frère, pour ma sœur, pour mon voisin, pour l'habitant de mon village ou de mon quartier. Et il n'y a pas de condition à cette fraternité. Jésus n'a pas dit « tu n'aideras ou tu ne viendras en prochain ou tu ne donneras un verre d'eau ou à manger ou à boire qu'à celui qui est de la même couleur que toi. Les autres, tu t'en occupes pas. » Jésus n'a jamais dit « heureux ceux qui viennent d'Afrique, ils seront les seuls sauvés. Heureux ceux qui viennent de Suède, il n'y aura que les Suédois à te sauver. » Non, toutes les nations sont appelées à faire la paix avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes appelés, nous, frères et sœurs en Christ, qui voulons vivre vraiment cette fraternité qui est même inscrite sur le fronton de nos mairies, à venir en aide à tous ceux qui nous entourent et qui sont en grande précarité. Et le nouveau gouvernement a un énorme défi dans ce domaine. La pauvreté n'est pas encore enrayée en France, et je ne sais pas si elle va l'être. Et les associations qui font un travail de terrain dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, sont indispensables à ce réseau de solidarité. Et nous avons notre place, vous avez votre place, mes frères et sœurs, dans ce réseau de solidarité, au nom des valeurs chrétiennes qui nous unissent et qui nous animent. Et quand je viens en aide à mon prochain, je le fais d'abord parce que je l'aime au nom de Christ. Et que je vois dans l'autre, même s'il ne croit pas en Dieu, même s'il ne me ressemble pas, je vois un semblable, quelqu'un que Dieu aime et veut sauver, et que je peux aider si je décide de le faire. Et à chaque fois que nous mettons en place une banque alimentaire, un vestiaire, une action solidaire d'aide aux devoirs, d'accueil des migrants, nous sommes un instrument de bénédiction aux yeux du Seigneur et pour la nation. Et puis j'ai vu dans votre programme qu'il y avait le 21 mai une journée citoyenne où les jeunes vont aller, je crois, nettoyer le centre-ville, un parc, le parc Hébert de la Rousselière, c'est ça ? Ben, est-ce qu'il y a des jeunes ce matin ici qui vont participer à cette action ? C'est des adultes, pardon, des vieux jeunes alors. Levez la main s'il vous plaît ceux qui sont dans l'équipe. Vous êtes un instrument de bénédiction pour la ville. Parce que les habitants, sans le savoir, vont circuler dans un parc bien nettoyé, remis en état avec des jeux pour les enfants, remis en état, nettoyé. Vous êtes un instrument de bénédiction pour la nation. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas la seule mission à laquelle Dieu nous a appelés. Dieu nous a dit « je vous envoie dans le monde ». Alors bien sûr, nous savons que nous ne sommes pas comme le monde puisque nous avons une connexion divine. Nous sommes reliés à Christ, nous sommes transcendés par la foi en Jésus-Christ. Mais cette présence au monde, comment la manifestons-nous ? Pendant la campagne présidentielle, on a remarqué que les Français étaient clivés, c'est-à-dire qu'ils étaient enfermés dans des groupes. Il y avait des groupes qui pensaient à l'extrême gauche, il y a des groupes qui pensaient à l'extrême droite, il y a des groupes qui pensent au centre, il y a des groupes qui pensent sur les côtés, au centre, au milieu, en dessous, au-dessus. Et c'est ça qui fait la richesse de la France. Et on est prêt à se battre, à manifester. On est même prêt quelquefois à en venir aux mains pour faire passer nos idées. Mais nous, les chrétiens protestants évangéliques, les assemblées de Dieu en particulier, puisque nous sommes assemblées de Dieu, vivons-nous avec les Français ou à côté des Français, séparés par des murs? Vous savez, on est très fort en France pour construire des murs de séparation entre nous. Ah non, non, tu fréquentes pas les mêmes endroits que moi, je te connais pas. Ah non, tu t'habilles pas comme moi, t'as pas la même marque de vêtements que moi, je te connais pas. Ah non, t'as pas la même religion que moi, donc je ne te parle pas. T'écoutes pas la même musique que moi, je ne te parle pas. Et alors on a des murs comme ça, on a construit, c'est nous qui les avons construits les murs, hein. Et quelquefois c'est des murs en aglo renforcés avec du béton armé et de l'acier dedans. Vous savez, des murs qui sont difficiles à détruire. Dieu nous a dit, je vous envoie dans le monde, soyez des sas étanches, fermés, noirs. Non. Soyez sel et lumière. On a la même Bible. Donc, le Seigneur ne nous a pas demandé de vivre à côté dans l'ignorance des autres, de notre prochain, mais de vivre avec les autres au milieu, au contact de la population. Regardez le ministère de Jésus-Christ sur la terre. Est-ce que Jésus était enfermé dans un monastère ou dans une église ou dans un centre missionnaire où les gens venaient le voir sur rendez-vous? Non, quand je lis les évangiles, à partir du moment où Jésus a commencé son ministère, il est allé au contact de la population et il était tout le temps au contact. Il était au milieu de la population, parmi les gens lettrés, parmi les ouvriers, parmi les marins pêcheurs, parmi les religieux, parmi les gens de mauvaise vie. Et on le lui a beaucoup reproché. Le ministère de Jésus était visible. On savait où trouver Jésus et il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si Jésus revenait, aussitôt sur les réseaux sociaux, il y aurait un énorme buzz et on dirait Jésus est à Angers, par exemple. Là, la salle serait vraiment trop petite. À l'époque, même sans réseaux sociaux, sans médias, on savait où trouver Jésus. Et le problème pour Jésus, c'est qu'il fallait de temps en temps qu'il puisse se reposer et dormir. Et même quand il trouvait un endroit au calme pour se reposer, les foules le suivaient. Alors il avait trouvé le principe de s'isoler sur les barques au milieu du lac, où de temps en temps il arrivait à se reposer. Mais nous sommes citoyens chrétiens avec des droits, mais aussi des devoirs. Et ce devoir est d'être, si nous le souhaitons, instrument de bénédiction pour la nation où le Seigneur nous a placés, et nous verrons tout à l'heure d'autres textes bibliques. Mais quelquefois nous pouvons nous laisser instrumentaliser, pensant que parce que nous sommes chrétiens, nous sommes supérieurs au reste de la population. Et que comme nous sommes chrétiens et donc supérieurs, c'est une illusion, hein, attention, n'enregistrez pas ça. Nous ne voulons surtout pas nous mélanger avec le reste de la population qui est perdue. Le commandement de Jésus-Christ, c'est de faire à notre prochain ce que nous aimerions que l'on nous fasse à nous. Et bien ça, c'est dans le code civil. C'est une valeur qui a été intégrée à la République. Le devoir de solidarité. La non-assistance à personne en danger, vous le connaissez. Si vous êtes en danger à un moment, vous allez crier au secours, et vous avez raison, et vous espérez que quelqu'un vite vienne vous chercher, vienne vous sortir de là. C'est un devoir de solidarité. Nous, lorsque nous avons compris que notre âme était perdue et que nous avons crié à Dieu d'une manière ou d'une autre, et que nous avons dit « Seigneur, sauve-moi, je te demande pardon pour mes péchés, mais surtout sauve-moi, Dieu nous a entendus et est venu. » Sommes-nous capables encore aujourd'hui, dans ce même acte de générosité chrétienne, de venir en direction de notre prochain, quel qu'il soit? Parce que vous savez, on a entendu beaucoup de discours ces semaines passées. On nous a dit, parce que l'autre est différent, nous devons le rejeter. Parce que l'autre est différent, nous ne devons pas partager. Parce que l'autre n'est pas chrétien, tu dois le considérer différemment. Mais mes frères et sœurs, le commandement de Jésus-Christ d'aimer notre prochain comme nous-mêmes ne supporte ni le racisme ni la xénophobie. C'est incompatible. C'est non négociable. Et répondre à ce commandement d'être sel et lumière nous conduit naturellement à vivre à côté de nos compatriotes, à côté des gens qui habitent le même pays que nous, en étant visible, en étant porteur de cette espérance que le Seigneur nous a donnée dans un pays où la laïcité nous permet de partager librement notre foi. Or, la laïcité, on le verra cet après-midi, on reviendra sur cette notion, la laïcité n'est pas une interdiction de parler de sa foi. La laïcité n'est pas une religion. La laïcité, lorsqu'elle a été pensée fin du XIXe siècle et rédigée début du XXe siècle, elle a été écrite comme un ensemble de lois qui régissent un principe égalitaire et respectueux entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. et qui est aujourd'hui être citoyen chrétien et français est une double bénédiction. Parce que nous avons tout d'abord le privilège de vivre dans une démocratie. Et si parmi nous, il y a des frères et sœurs qui ont vécu dans des dictatures, allez les voir et demandez-leur de vous parler de leur vécu quand ils étaient dans un pays sous dictature. Donc je bénis le Seigneur, moi, tous les matins pour la paix et la liberté que nous avons dans notre pays. Je ne sais pas si vous le réalisez. Hein. Les plus anciens ont connu peut-être l'occupation allemande. L'occupation allemande était une période de presque 5 ans où les Français ont été privés de liberté. Maintenant, les générations passent, on a oublié ces choses-là. Il y en a qui ont combattu pour pouvoir que nous puissions retrouver notre liberté de conscience et d'expression. En France, nous sommes libres de dire que l'Évangile est la meilleure des nouvelles qui ait été donnée à l'humanité. Nous avons le droit de le dire. Alors bien sûr, il y a des règlements qu'il faut respecter. Et nous pourrons revenir cet après-midi sur la possibilité que nous avons de parler de notre foi au travail, à l'université, dans l'association, dans l'espace public. Parce qu'il y a des endroits où il est possible de le faire, d'autres endroits où il n'est pas possible de le faire à cause des règlements, mais nous avons tout de même une grande liberté en France. Et je bénis le Seigneur pour cette liberté de conscience, d'expression et de culte qui nous permet d'implanter des nouvelles églises, qui nous permet d'offrir des Bibles, qui nous permet de témoigner de la grâce de Dieu à l'extérieur ou à l'intérieur, là où nous habitons. Et lorsque nous témoignons de l'Évangile, lorsque nous témoignons de l'amour de Dieu, de ce que Dieu a fait pour nous, et je vous encourage, les Français ne sont pas intéressés par la religion, vous l'avez remarqué ? Par contre, si vous racontez à un ami, à une voisine, à un collègue de travail, ce que Dieu a fait pour vous personnellement dans votre vie, personne ne pourra vous l'enlever. Parce que ce n'est pas une religion, ce n'est pas une marque, ce n'est pas un parti politique, c'est une histoire humaine et spirituelle vécue qui a transformé votre vie un jour. Et personne ne peut vous interdire de dire ce que Jésus a fait pour vous et ce qu'il a fait dans votre vie et ce qu'il fait encore aujourd'hui. Et la laïcité nous permet de le faire dans des conditions, mais qui ne sont, je considère, pas restrictives. Alors, soulager la souffrance physique et matérielle, témoigner de notre foi, sont importants, mais ne suffiront pas si les péchés ne sont pas pardonnés et si les vies ne sont pas transformées. Et pour cela, il faut que nous puissions garder longtemps cette liberté de conscience et d'expression. Le CNEF a publié il y a 3 ans cette campagne qui s'appelle « Libre de le dire », dont vous avez peut-être entendu parler. Ce sont des petits livrets qui vous expliquent ce que la loi vous autorise de dire ou de ne pas dire dans les différentes circonstances de votre vie. Certains tentent de combattre le christianisme et d'interdire l'expression de la foi chrétienne dans l'espace public. Mais vous connaissez cette parole de la Bible qui dit que la terre et le ciel passeront, mais ma parole demeurera éternellement. Alors, de tout temps, il y a des hommes et des femmes qui ont essayé de tuer le message de l'Évangile, mais ils n'ont pas réussi. Alors ils s'attaquent au messager, ou à la messagère, à celui ou celle qui porte le message, pour l'empêcher de communiquer ce message d'espérance. Mais la parole de Dieu demeure éternellement, mes frères et sœurs. Et personne ne pourra l'éteindre, et nous sommes les témoins de cette bonne nouvelle. Et je voudrais conclure avec un troisième et dernier texte dans le deuxième livre, je voulais lire avec vous dans le prophète Jérémie au chapitre 29 et au verset 4. Le texte va s'afficher. Jérémie chapitre 29. C'est un texte qui s'adresse au peuple de Dieu dans une période où il est vraiment pas favorisé. Hein. Il a été capturé, emmené en captivité, il est en exil, imaginez-vous, hein, que vous soyez déraciné de vos maisons, de vos quartiers, que vous soyez emmené en captivité dans un autre pays, dans une autre ville. Et voici ce que dit Dieu par la bouche de son prophète Jérémie, verset 5. « Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en le fruit. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles, mariez vos fils, donnez vos filles en mariage pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Multipliez-vous là où vous êtes et ne diminuez pas. » Verset 7, notez-le bien. Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépendra de la sienne. Et d'autres versions disent, votre bonheur dépendra du bonheur de la ville. Je crois que lorsqu'une ville est bien gérée, les habitants sont heureux. Non ? La ville d'Angers a une bonne réputation. Je vous le dis, hein, j'y habite pas. Mais les échos que j'ai d'Angers sont de bons échos. Alors peut-être que, bien sûr, vu de l'intérieur, vous avez un autre avis. Ça, c'est autre chose. Je crois que lorsque les chrétiens prient pour le bonheur du village, de la ville ou du pays dans lequel ils habitent, Dieu entend ces prières et bénit ceux qui le gouvernent. Quelle que soit leur couleur politique, même si vous n'avez pas voté pour le maire, même si vous n'avez pas voté pour le nouveau gouvernement, si vous priez pour le bien de votre pays, de votre nation, je crois que nous pouvons être amenés à voir les choses changer dans notre pays. Maintenant, si vous ne priez pas, il ne va pas se passer grand-chose, vous savez. Parce qu'attention, la prière est efficace. Attention. Et il est temps de redoubler de prières en faveur de notre pays. N'attendons pas tout du nouveau gouvernement qui est en train de se mettre en place. Il a une responsabilité énorme. Que vous ayez voté pour lui ou pas, là n'est pas la question. Moi, en tant que chrétien, je lis la Bible et je vois que Dieu me dit « Espère du bien pour ton pays. Espère du mieux pour ton pays. Un avenir et de l'espérance. » Et je voudrais, pour conclure, lire ce chapitre, ce livre de deuxième livre des Chroniques au chapitre 7 et au verset 11. Si nous voulons la guérison de notre pays, et je pense que si vous êtes honnête avec vous-même devant Dieu, vous voudriez que la France aille mieux, pas simplement pour vous directement, mais pour l'intérêt commun, alors nous pouvons faire nôtre ce verset qui était là et qui a disparu. Alors voilà, merci. Salomon acheva donc la maison du Seigneur et la maison du roi. Il réussit tout ce qu'il avait eu l'idée de faire dans la maison du Seigneur et dans sa propre maison. Le Seigneur apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'ai entendu ta prière et je me choisis ce lieu comme maison de sacrifice. » Et là, le verset 13 commence à être intéressant. C'est Dieu qui parle, hein ? Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux criquets de dévorer le pays, quand même j'enverrai la peste contre mon peuple. La clé, elle est là, mes frères et sœurs. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me recherche, s'il revient de ses mauvaises voies, je l'entendrai depuis le ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Moi, je veux faire mienne cette promesse. Ce n'est pas une promesse électorale, c'est la parole de Dieu. Et elle s'est accomplie, et elle s'accomplit encore aujourd'hui. Espérons-nous un avenir meilleur ? Eh oui, forcément. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nous-mêmes, pour notre famille, pour nos amis. Alors, avez-vous déjà pensé à prier pour vos élus ? Merci Seigneur. Je ne vous condamne pas si vous ne l'avez pas fait ou si vous n'avez pas répondu. Mais bon, que ça vous travaille un petit peu ce matin quand même. Nous avons souvent tendance à voir les images de l'Assemblée nationale à moitié vide ou avec des parlementaires fatigués qui dorment. C'est pas vrai ? Et on retient que ces images-là. Parce que si tous les jours on vous montrait l'Assemblée nationale pleine à craquer de députés en train de travailler, vous diriez « bon bah oui, ça va, 5 minutes quoi ». C'est pas comme si tous les jours on prenait à 20h au journal de 20h une demi-heure pour vous donner les informations de tous les trains qui sont arrivés à l'heure. Vous direz, bon, bah oui, c'est normal, ils sont arrivés à l'heure. Mes frères et sœurs, je voudrais vous encourager à prier pour vos élus. Parce qu'on nous donne une image, une mauvaise image de la classe politique. Il y a des hommes et des femmes corrompus, c'est clair. Mais dans tous les domaines. Mais il y a aussi des hommes et des femmes formidables qui consacrent leur vie au service des villages, des quartiers, des villes et de la nation. Et j'en rencontre. Et je vous le dis parce que c'est une réalité. Moi, je suis encarté, je ne vends aucun parti ce matin. Mais je crois qu'il faut être honnête avec nous-mêmes et avec Dieu. Il y a des hommes et des femmes formidables qui travaillent et qui consacrent des heures et des heures de travail pour que nos pays, notre pays, nos villes et nos villages soient bien gérés. Vous êtes content d'avoir de l'eau potable à votre robinet ? Vous êtes content que les poubelles soient enlevées ? Vous êtes content d'avoir des écoles où les enfants peuvent étudier. Vous êtes content d'avoir des piscines chauffées avec de l'eau propre. Vous êtes content d'avoir des routes en bon état. Vous êtes content d'avoir des espaces verts. Et vous dites, mais oui, c'est normal, je paye des impôts. Mais il faut quand même comprendre qu'il y a des hommes et des femmes qui passent des milliers d'heures de travail à penser ces politiques, à trouver des subventions, trouver des budgets, les mettre en place, à nommer des équipes pour les gérer. Et moi, je dis merci Seigneur pour la bonne organisation de tout cela. Et je veux penser et je veux m'humilier parce que nous sommes français et que nous avons toujours cette tendance. Et je le confesse, il y a quelque temps j'étais au Canada chez un ami qui m'avait invité avec mon épouse Et puis un soir à table, il me dit « Alors, comment ça va en France ?» Alors moi, en bon français, je commence à lui dire « Oh là, on parle pas la France. » Alors le chômage a encore augmenté. La politique, on espère plus rien. L'économie, c'est une catastrophe. Le niveau de scolaire baisse, tout ça. Puis je commence à lui dresser un tableau en bon français. Puis il me regarde et il me dit « T'es vraiment un français, toi ?» Il me dit « Rien qui va bien dans ton pays ?» Et là, j'ai fait une prière de repentance express. Et oui, il y a des choses qui vont bien dans mon pays. Et je ne pense pas remercier le Seigneur pour ça. Alors je crois que nous pouvons prier pour demander à Dieu de donner du courage, de la force, de la sagesse, de l'intégrité à ceux qui nous gouvernent. Après, c'est aussi leur liberté et leur responsabilité que de le faire ou pas. Vous savez bien, nous avons une grande liberté, Dieu nous donne une grande liberté. Mais je crois que si nous prions pour notre nation de manière plus sérieuse et si nous le faisons de plus en plus nombreux, alors nous pouvons voir les choses changer. Et puis vous savez, en tant qu'aumônier, moi ça m'intéresse aussi de savoir que ces hommes et ces femmes politiques fassent un jour une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Alors il y en a qui l'ont déjà fait, mais c'est très compliqué en France de dire quand on est en politique de dire que l'on croit en Jésus-Christ. Vous avez remarqué ? Mais je bénis le Seigneur. Parce que dans les entretiens que j'ai avec les sénateurs et les députés ou les attachés parlementaires, je rencontre des chrétiens authentiques, nés de nouveau, comme on dit. Et moi, je tombe de haut. Mais ça, c'est dans l'entretien du bureau, hein, porte fermée. Hein. C'est pas devant les caméras. Et je dis, Seigneur, lui, il te connaît ? Non. Eh si. Elle lit la Bible ? Eh oui. Elle te prie avant de prendre une décision importante à l'Assemblée nationale ? Oui. C'est incroyable. Mes frères et sœurs, je voudrais vous encourager, on en parlera cet après-midi si vous êtes là. Dieu a placé dans notre pays aussi des chrétiens, hauts fonctionnaires, députés, sénateurs, conseillers personnels, de personnalités très importantes. Mais notre fichue laïcité, lorsqu'elle est déformée et lorsqu'on l'utilise de manière géométrie variable, nous empêche de le dire librement ou les empêche d'en parler librement. Alors, moi, je n'ai jamais prié pour que nous ayons un gouvernement chrétien parce que je ne vois pas ce commandement-là dans la Bible. Mais je veux dire du bien sur mon pays dans la prière. L'Église de Jésus-Christ est un instrument de bénédiction pour la nation. Et lorsque nous agissons au travers des actions sociales, des actions citoyennes, au service du bien commun, lorsque nous témoignons de notre foi et que nous amenons des hommes et des femmes à Christ, lorsque nous prions pour notre pays, nous sommes un instrument de bénédiction pour notre nation. Et je voudrais vous inviter, si vous êtes d'accord, et si Daniel me le permet, que nous puissions nous lever pour prier pour la France, maintenant. Parce que c'est une période particulière où un nouveau gouvernement est en train de se mettre en place. Le nouveau président de la République a été accueilli ce matin à l'Élysée. Alors au-delà des images que vous reverrez au journal télévisé ou sur les réseaux sociaux tout à l'heure ou ce soir, ayez un temps de communion avec le Seigneur. Et nous pourrions commencer maintenant, si vous êtes d'accord. En te disant, Seigneur, nous reconnaissons tout d'abord notre manque de courage et notre état d'esprit qui nous a amené le plus souvent à critiquer ceux qui nous gouvernent, à avoir du mépris pour ceux qui sont au pouvoir. Et pour cela, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour nos péchés, le péché de notre peuple. Nous te demandons pardon pour l'état moral, spirituel, économique et politique de notre pays. Mais Seigneur, nous voulons peut-être ce matin prendre un engagement devant toi, celui de prier davantage pour notre nation. Seigneur, guéris notre pays, s'il te plaît. Fais grâce. Relève notre pays. Restaure notre nation à tout point de vue. Bénis ceux qui nous gouvernent, bénis les conseils municipaux, les conseils départementaux, régionaux, les députés, les sénateurs et le nouveau gouvernement qui se met en place. Seigneur, nous serons certainement mécontents de certaines décisions. Nous serons certainement déçus par des engagements. Mais nous voulons voir au-delà des capacités humaines. Et tout en te demandant de bénir ceux qui nous gouvernent, nous te disons bénis notre nation, s'il te plaît, dans le nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Restaure-la, fais grâce et permets-nous d'être encore pendant longtemps un instrument de bénédiction pour les Français, pour les Françaises au milieu desquelles nous vivons, pour ta gloire et dans le nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen.